Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous sommes à Hérésie Christologique 3. Je rappelle dans notre feuilleton, sur les hérésies christologiques, puisqu'on voit que c'est quand même des siècles de discussion autour du Christ, ce qu'est le Christ, comment en parler d'une manière juste. Nous évoquions les hérésies donc autour du monophysisme, qui, comme le souligne donc le catéchisme au 467, affirmait que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu, ce qui a donné des conciles. On a évoqué Cyril d'Alexandrie dans la lutte contre le nestorianisme, etc. On a parlé de certaines conditions qui ont fait que Arméniens, Coptes, Syriaques, ont été se sont trouvés un peu en marge de l'affirmation christologique qui était en train de se mettre en place dans les conciles. Du coup, la question que parfois on va se poser, c'est au fond, ces divisions sont-elles uniquement le fait de l'histoire, des enjeux politiques, le fait de ne pas être au bon rendez-vous, si on peut dire, ou bien est-ce qu'il y avait derrière, la part était-elle quand même beaucoup plus à la façon dont on posait les choses, une des vraies conceptions théologiques et christologiques qui était faussée, qui correspondait à une tradition propre. Finalement, comment, quelle est la part des deux? Ce n'est jamais si simple que ça. Comme dans notre existence d'ailleurs, nous sommes quand même façonnés dans notre manière de dire les choses par un contexte qui peut nous déjoyer.
Alors c'est vrai qu'il faut tenir à la fois qu'il y a, comme disait Paul VI, Saint Paul VI dans Mysterium Fidei, une règle de langage qui permet un signe d'identité pour exprimer la vérité. Il faut tenir cette règle de langage, et cette règle de langage donc demande des confrontations, et des confrontations qui s'appuient bien sûr sur la révélation, mais la révélation qui fait appel à l'intelligence humaine et donc à la philosophie. Il y a une philosophie réaliste qui est compatible avec le donné révélé, il y a des tas de philosophies qui sont incompatibles. Et donc il fallait faire ce double tri déjà au niveau de l'intelligence, ce qui n'était pas si facile que cela. Et puis d'autre part, comme tu l'as souligné très bien, il y avait les conflits géopolitiques, comme on les appelle maintenant. Et c'est évident qu'au concile de Chalcédoine, en 451, les Arméniens, par exemple, n'ont pas pu venir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en pleine guerre entre le régime des rois chrétiens, qui avaient été les premiers depuis 300 à avoir affirmé l'identité chrétienne, avec Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a fait que c'était la première nation chrétienne au IVe siècle, à lutter contre les envahisseurs qui arrivaient nombreux et qui petit à petit prenaient place dans ce monde donc d'Extrême-Orient. Et les Sassanides donc envahissaient ce petit royaume d'Arménie, et ce qui fait que au concile de Chalcédoine, les Arméniens ne purent même pas envoyer un évêque, hein, tellement ils étaient en guerre. Et donc ils ont ignoré le concile de Chalcédoine. Et se réveillant dominés par les Sassanides, ils trouvèrent plus judicieux, pour ne pas donner l'impression d'être une cinquième colonne à l'intérieur de l'Empire sassanide, de prendre une position un peu décalée par rapport à l'Empire byzantin, pour ne pas donner l'impression qu'ils étaient des sujets de l'Empire byzantin. Et donc ils ont préféré prendre ce qu'ils avaient vu se manifester chez les Syriaques ou chez les Coptes, une position un petit peu étrangère aux positions de Chalcédoine. Et ils ont adopté le monophysisme à ce moment-là. C'était plus facile pour garder leur identité, je dirais, ethnique au milieu d'une nation sassanide qui les persécutait déjà en partie. Donc ils ne pouvaient pas rajouter en plus une adhésion à une foi géopolitique, comme elle apparaissait, adhérer à la foi byzantine, c'était adhérer en même temps à la géopolitique byzantine. Et donc il y avait un enjeu délicat pour ces nations qui étaient un petit peu périphériques par rapport à l'Empire. C'est vrai aussi moins en Syrie et en Égypte, où on est déjà plus éloigné de l'Empire romain, c'est plus au sud, et il y avait plus de, je dirais, de liberté. Mais cette liberté était souvent contrainte par les empereurs byzantins qui imposaient manu militari leur façon de voir et leur exigence. Alors, il faut reconnaître que les fautes sont de chaque côté. Cyril d'Alexandrie, que nous évoquions dans une émission précédente, avait fait venir au Concile d'Éphèse des malabars, des moines un petit peu costauds pour forcer tout le monde à adhérer à sa façon de voir.
C'est une méthode.
C'était une méthode, oui, mais qui n'était pas très belle au niveau de la liberté de chacun. Et il y a eu le pseudo-concile d'Éphèse, qui a été une sorte d'Éphèse manqué par le successeur de Cyril, qui, lui, a été encore plus violent et qui a fait qu'on a failli tomber dans l'hérésie en 449. Heureusement, il y avait un petit diacre qui était mandaté par le pape de l'époque qui a dit « contradicitu » au milieu de l'Assemblée. Nous sommes contre cette décision et, de fait, ce deuxième concile d'Éphèse n'a jamais été accordé par l'ensemble de la chrétienté parce qu'il y avait une emprise de l'Égypte, une emprise du successeur de Cyril, trop violente, trop forte, et qui imposait sa façon de voir sans accord. Or, Cyril, lui, était beaucoup plus fin. Il avait su s'accorder dans une lettre avec Jean d'Antioche dès 433 pour essayer de trouver un commun dénominateur, et en serrant les expressions, essayant de trouver un langage commun. Saint Cyril était très attaché à la nature, au mot nature, phusis, mais dans phusis, il mettait la personne. Il n'avait pas les mots pour distinguer personne et nature. Et donc, il a fallu tout cet effort des Cappadociens, des grands Basile, Grégoire de Nyse, Grégoire de Nazianze, pour faire avancer les notions pour qu'on puisse distinguer hypostase d'un côté, personne, et puis les natures de l'autre côté, nature humaine, nature divine. Et tous ces mots, il fallait les comprendre, non seulement à partir de la philosophie, mais à partir de la révélation. Et ça a été à tout petit pas que l'on est arrivé à bien distinguer les choses. Dire que dans la Trinité, il y a une nature et trois personnes, très bien, et en Jésus-Christ, une personne est de nature. Vous imaginez la difficulté, 2, 3, 1, 2, etc. Oui. Les gens pouvaient être un peu perdus, mais ça passionnait les gens. Et on dit qu'à l'époque de Cyril d'Alexandrie ou de Nestorius, on discutait sur les marchés. Les gens, en vendant leurs tomates ou en achetant leurs fruits, discutaient sur le diphysie, sur le monophysie. Tout le monde était de la partie. C'était une atmosphère tout à fait extraordinaire. Il y avait un feu sacré, je dirais. Et dans ce feu sacré, bien sûr, il a fallu, comme toujours, faire comme une sorte de tamisage, c'est-à-dire laisser remonter à la surface les scories pour les enlever et garder le fond qui permettait de professer la véritable foi qui, heureusement, maintenant, est celle que nous disons chaque dimanche dans le concile de Nicée-Constantinople, et avec la particularité latine,
le credo
de Nicée-Constantinople, avec la particularité que c'est une adaptation latine, il faut bien le dire à nos auditeurs, une adaptation de par le fait que nous avons ajouté que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, nous le disons textuellement. C'est un ajout du concile de Latran IV, du concile de Lyon II et du concile de Florence. Donc en fait, lorsqu'on dit que nous professons le credo de Nicée-Constantinople, c'est pour l'essentiel, mais d'une manière particulière, c'est aussi Latran IV, qui pour nous est très important, parce que c'est le Moyen-Âge, c'est la fondation de l'ordre pratiquement oui. des Dominicains. Florence et Lyon II, c'est cet ensemble donc, qui est particulièrement affirmée dans l'ajout du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Donc il a fallu là aussi beaucoup de précision, et on pourrait dire que lorsque nous professons donc ce texte du credo de Nicée-Constantinople, il faudrait mieux dire le credo des très saints conciles, comme dit le Concile Vatican II en appelant la constitution dogmatique sur l'Église, où on parle du très saint concile, ou encore mieux, même la constitution sur la liturgie qui commence par cette expression, le très saint concile, sacro sanctum concilium, a voulu exprimer que c'est l'ensemble de ces conciles, c'est pas seulement un concile qui serait 325 plus un concile 381 de Constantinople, c'est l'ensemble de la foi qui s'exprime dedans, et on le voit bien par l'ajout que les papes ont autorisé à partir du 11e siècle dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors c'est toujours une pomme de discorde avec nos amis orthodoxes, mais il y a eu une clarification en 1995, qui a essayé de montrer que nous tenions à la fois à tout ce que les orthodoxes disent, mais que nous ajoutions quelque chose qui est très présent chez les pères depuis les origines, et qu'on ne pouvait pas manquer l'un ou l'autre. Pour choisir l'un ou l'autre, il fallait tenir les deux, et le filioque semble être encore le meilleur moyen pour tenir justement ce que Cyril d'Alexandrie disait, ou Athanase, ou tous les grands papes depuis Damase, en passant par les grands évêques comme Ambroise, mais Augustin, Léon le Grand, Grégoire le Grand, tous ont professé quelque chose qui précisait quelque chose sur l'identité du Saint-Esprit.
Donc, qui procède du Père procède et du Fils.
Qui procède du Père et du Fils. C'est important de le dire parce que on doit ménager la sensibilité de toutes ces églises orientales, que ce soit donc les Assyriens, les Coptes, les Syriaques, les Arméniens, mais aussi les Byzantins, Chalcédoniens, qu'ils soient grecs ou russes, et arriver à montrer au monde que nous sommes unis finalement, et que nous témoignons d'une même foi en Jésus-Christ, même s'il y a des petites différences culturelles. Pour revenir à la question que tu posais au début, il y a une pluriformité légitime. Voilà.